partout, dans toutes les dénominations dites chrétiennes, le nom de Christ est récité. Le nom de Jésus est aussi récité. Mais connaître qui est Christ et qui est Jésus, là c'est tout un problème. Mais c'est le rôle de l'enseignant. Jésus et Christ, chacun des deux, a une mission. Mais les deux font un. Jean 10, 30 nous le dit. Parce qu'ils sont un, chacun a une mission par rapport à l'autre. Il y en a un qui donne l'ordre et l'autre exécute l'ordre de l'autre. Il faut bien comprendre que Jésus exprime visiblement ce que Christ ordonne. En clair, Jésus, l'homme, met en pratique visiblement ce que Christ, la parole de Dieu, ordonne. Nous entendrons dans cet enseignement Jean 14, versets 8 à 11. Donc le croyant chrétien, le frère de Jésus, l'homme, lui comme Jésus, met en pratique ce que la parole de Dieu, Christ, ordonne. Christ, qui il est ? On parle de Jésus-Christ partout dans toutes les dénominations chrétiennes. C'est vrai qu'on connaît Jésus, le fils de Marie, Marie la fiancée de Joseph. Encore aujourd'hui, ce qui concerne Christ, beaucoup de croyants chrétiens ne connaissent pas vraiment qui est Christ. C'est pour cela que cet enseignement sera consacré sur la connaissance de Christ. Vous voyez que Jésus n'est pas né Jésus-Christ. L'ange n'a pas dit à Marie, « L'enfant que tu porteras s'appellera Jésus-Christ, mais Jésus tout court. » Luc 1, 31. « Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et cet enfant est aussi le fils de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a rendu enceinte Marie. Luc 1, verset 34. 35. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Mais le Christ, c'est qui ? Parce que plus tard, Jésus deviendra Jésus-Christ. Donc Jésus et Christ sont devenus un et une seule personne. Christ est Dieu. Christ est la parole de Dieu. Christ est l'amour de Dieu. Christ est la conscience de Dieu. Christ est la pensée de Dieu. Christ est la vérité de Dieu. Christ est la justice de Dieu. Christ est la grâce et la miséricorde de Dieu. Christ est la personnalité de Dieu invisible. Tous ses attributs et toute son affection déterminent la personnalité de Dieu, c'est-à-dire la plénitude divine de Dieu. Tout cela porte un nom, Christ. La différence qu'il y a entre le croyant chrétien et l'enfant d'Israël est la suivante. Les enfants d'Israël n'ont pas vu Dieu. Dieu se présentait à ses enfants d'Israël sous forme de feu, sous forme de tempête. Mais le croyant chrétien a vu Dieu sous forme humaine. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Christ est dès le début avec Dieu. Il est Dieu, c'est-à-dire sa parole. Jean 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ce n'est pas Jésus qui était au commencement, mais Christ. Mais c'est parce que Dieu voulait lui-même montrer à l'homme qui il était, sa personnalité visiblement. Alors Dieu fit cette promesse. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu est avec les hommes, car il a pris le corps de l'homme pour fusionner avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personnalité de Dieu est invisible, car Dieu est esprit, sans corps visible. Il faut distinguer le corps et la personnalité d'un être. Pour se rendre visible, Dieu a besoin d'un corps humain. C'est dans ce corps que sa personnalité, donc Christ, va habiter. C'est-à-dire la plénitude divine de Dieu, les attributs de la personnalité de Dieu. La parole, l'amour, la conscience, la pensée, la justice, la vérité, la grâce et la miséricorde de Dieu doivent être exercées par ce corps humain. Donc cet homme doit accomplir la volonté de Dieu. Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ce corps dont on parle, c'est Jésus, un corps saint pour accueillir la plénitude divine de Dieu, donc Christ. Colossiens 2,9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Adam avait reçu aussi cette même recommandation. Voyons Genèse 2, versets 15 à 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme : tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dieu demandait à Adam de cultiver cette personnalité, c'est-à-dire la plénitude divine de Dieu, en mangeant les fruits de l'arbre de vie. C'est en mangeant ces fruits de l'arbre de vie qu'Adam pouvait porter en lui l'image de Dieu et vivre éternellement. C'est cela qui a été la volonté de Dieu en créant l'homme Adam. Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Mais Adam n'a pas voulu accomplir la volonté de Dieu. Il a suivi les recommandations de Satan par sa femme. Genèse 3, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point. » Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Et dans le verset 17 du même chapitre, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Cet arbre de vie est descendu sur la terre pour sauver l'homme. Le Christ, l'arbre, est entré dans le monde et a pris le corps humain pour se revêtir afin de se rendre visible. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est le comportement et la conduite donnée comme exemple, qui est cette nourriture que l'homme doit imiter ou accomplir. Jean 6, 48, et après nous prendrons le verset 51. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus, qui a accepté de porter en lui cette plénitude divine de son Père Dieu, a été proclamé le Fils de Dieu portant l'affection de son Père. Marc 1, 11. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Parce que en Jésus habitait toute la plénitude divine de son Père. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus reflétait les attributs, c'est-à-dire la personnalité, la gloire et l'empreinte de son Père, Dieu invisible, Christ. Colossiens 1, 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Devenant un avec son Père, portant en lui les attributs de son Père, Christ, Jésus, est devenu Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est devenu Dieu visible. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. » Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Étant la personne de son Père visible, il reçoit donc la puissance de son Père qui est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité et de puissance. Marc 1, verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. pour le croyant chrétien, quelle est donc la relation entre Jésus et lui pour que celui qui est baptisé dans les eaux qui coulent au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Nous savons que par cet enseignement, que Dieu se fait connaître au monde que par le corps de son Fils. Et nous sommes, nous croyants chrétiens, enfants de Dieu adoptifs par Jésus-Christ par le baptême. Romains 8, versets 15 et 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu doit se faire connaître par ses enfants adoptifs à l'exemple de Jésus, le Fils aîné. Le croyant chrétien doit être habillé, habité par le Christ de l'Esprit de Dieu. Il doit aussi manifester les attributs de la personnalité de Dieu, c'est-à-dire sa plénitude divine. 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Le croyant chrétien doit aussi répondre de la même manière que Jésus a répondu à Philippe, son disciple. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. » Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Dieu nous demande de demeurer en lui et que Christ demeure dans le corps du croyant chrétien. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le croyant chrétien doit avoir le même comportement, la même conduite, la même attitude que son Père à l'exemple de Jésus. Car c'est la personnalité de Dieu, c'est-à-dire Christ et son Esprit qui dirigent et conduisent la vie du croyant chrétien. 1 Pierre 1, versets 15-16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Jésus est le modèle de corps que Dieu aime et prend plaisir. Comme ce corps, Jésus, est avec Christ, la personnalité de Dieu, il faut que le croyant chrétien soit comme Jésus. Jean 17, versets 21 à 23. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jésus-Christ est venu pour nous faire connaître le Père et nous délivrer de l'ignorance et la méconnaissance de Dieu notre Père avec ses conséquences. Jean 17, verset 3 à 10. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Personne ne dira pas qu'il n'a pas connu le Père. 1 Jean 1, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Jean 15, 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Amis, frères et sœurs en Christ, cet enseignement nous éclaire. Consolidons notre foi et notre croyance pour qu'au moment venu, Dieu les valide, pour qu'au retour de notre frère Jésus, nous recevions la proclamation en tant qu'élus, afin que nous soyons là où est notre frère Jésus. 1 Jean 3, versets 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble élevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Conclusion. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas des offrandes. Il ne demande pas des dîmes, des sacrifices, des rites et traditions religieuses. Jésus, notre frère, nous demande de l'imiter en accomplissant la volonté de Dieu, en exprimant la nature, c'est-à-dire la personnalité de Dieu qui est amour. Jean 15, 12. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Christ est venu pour fusionner avec l'homme, pour que cet homme, une fois revêtu de Christ, traduise ou exprime la personnalité et la vie de Dieu en lui. C'est le but de la nouvelle alliance avec sa loi royale. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu ? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Jean 10, verset 30. « Moi et le Père, nous sommes un. » Éphésiens 5, versets 1 et 2. « Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Celui qui prêche un autre évangile des offrandes et dîmes, des rites et traditions, est dans l'erreur et ne prêche pas Jésus-Christ. Il est antéchrist car il ne reconnaît pas l'offrande et sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Pour lui, Jésus-Christ est mort en vain. Prenons Galates 2, verset 21 pour finir. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Que Dieu, frères et sœurs, amis en Christ, veille sur vous.